C'est...
Dimanche dernier, le parti du président argentin Javier Milei, la Libertad Avanza, la Liberté Avance, est arrivé en tête aux élections législatives. En tête lors d'un scrutin qui peut être considéré comme un test à mi-mandat pour le président au pouvoir depuis 2023, recueillant 41% des voix. Javier Milei semble avoir transformé l'essai depuis sa victoire à la présidentielle. Alors, comment expliquer cette victoire malgré les coûts sociaux des réformes? Quelle est la part d'adhésion à Javier Milei, à son programme, à ce qui l'incarne? Et jusqu'où ce résultat renforce-t-il vraiment sa capacité à gouverner? Deux invités ce soir pour nous éclairer. Maricel Rodriguez Blanco, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue maîtresse de conférences à l'Institut catholique de Paris, membre du réseau des politistes sur l'Amérique latine. Face à vous, Carlos Kenan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, vice-président de l'Institut des Amériques. Vous avez coordonné l'ouvrage intitulé « Éducation numérique, cohésion sociale et politique publique, regard croisé, Europe, Amérique latine, Caraïbes ». C'était pour l'Agence française de développement et l'Institut des Amériques. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Hoy.
Aujourd'hui a clairement été une journée historique pour l'Argentine. Le peuple argentin a décidé de laisser derrière lui 100 ans de déclin et de persévérer sur la voie de la liberté, du progrès et de la croissance. Aujourd'hui, nous avons atteint un point de bascule. Aujourd'hui commence la construction d'une Argentine forte. Au cours des deux prochaines années, nous devons consolider la voie réformiste que nous avons empruntée afin de tourner définitivement la page dans l'histoire argentine. Nous nous concentrons désormais sur la mise en œuvre des réformes dont le pays a besoin pour consolider sa croissance et son essor définitif afin que l'Argentine redevienne une grande nation.
Javier Milei, au soir de ces élections législatives, un succès pour lui-même, pour son parti également, Maricel Rodriguez Blanco. Quand on lit la presse occidentale, on a le sentiment d'une véritable surprise, des sondages d'opinion absolument démentis. Est-ce que pour vous-même, j'allais dire, qui regardez dans le détail ce qu'est la politique argentine au quotidien, est-ce que cela a été une surprise ?
Non, on peut pas dire que ça a été complètement une surprise. Les sondages préalables, les dernières semaines, en fait, avant cette élection de mi-mandat, avaient envisagé ces scénarios. En fait, il a fait un score très respectable, un score qui avait été évalué comme un score très positif lors de ces scénarios. Mmh. Mais bon, selon les scénarios, il pouvait faire un score entre 30% et 40%. Il a fait 40%, enfin un peu plus de 40% même. Donc effectivement, on peut dire qu'il a gagné aux élections des mi-mandats, qu'il supposait, entre autres, hein, et qu'on peut lire comme une sorte de test de son mandat. On peut évaluer, en fait, en tout cas cela. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces cadrages, en fait, consistent à regarder ces votes et ces élections en termes des surprises, voire surprises, soit continuité. On peut juste voir, en réalité, ce que Milei a réussi à construire pendant tous ces temps-là, en termes des projets autoritaires, ultralibérales, d'extrême droite, et aussi les effets, en fait, des politiques, notamment économiques, mais aussi de son rapport à l'État et son rapport à la démocratie qu'on a pu voir.
On va y venir, évidemment, hein, sur ses politiques publiques, celles qu'il déploie depuis 1 an et 10 mois, mais avant cela, Carlos Kenan, un mot sur ses résultats, les résultats des élections législatives. Le parti de Javier Milei arrive en tête dans 16 provinces sur 24 en Argentine, avec, j'allais dire, peut-être la plus grande des surprises, c'est cette victoire dans la province de Buenos Aires, bastion historiquement du péronisme. Là aussi, comment l'expliquer, comment le comprendre ?
En fait, comme cela a été dit, disons, il y avait plusieurs scénarios, et le scénario où Milei faisait 40% ou plus était envisagé, mais la vérité, c'est que la plupart des analystes n'y croyaient pas beaucoup. Parce que, justement, on avait l'impression que Milei arrivait, même si certains points forts, peut-être on va en parler tout à l'heure, étaient présents, comme la maîtrise de l'inflation, mais arrivait un peu affaibli à cette échéance électorale, puisqu'il venait de perdre, et par une différence de 14 points, lors des élections législatives provinciale, cette fois-ci, qui avait eu lieu début septembre à la même province de Buenos Aires, d'une part, et d'autre part, il arrivait un peu à bout de souffle pour ce qui est de son programme économique, puisque, effectivement, il y avait les succès en matière de lutte contre l'inflation, mais, et en même temps, une perte persistante des réserves de change, qui sont très faibles dans le cas de l'Argentine, et puis une assistance dans les dernières semaines directe de l'administration Trump pour soutenir l'économie argentine. Donc, l'idée qu'elle pouvait faire un grand résultat électoral, y compris aussi d'autres questions, comme des affaires de corruption qui avaient éclaté au cours des dernières semaines, apparaissait comme une idée un peu bizarre qu'il pourrait faire un bon résultat. Mais il y a peut-être dans ces éléments que je viens d'évoquer, par exemple l'aide de l'administration Trump, qui avait dit, le propre Trump, si Milei perd, on va laisser tomber l'Argentine, on va laisser tomber. Peut-être une partie de l'électorat qui se dit, attention, ne votons pas n'importe quoi, notamment pas l'opposition, parce que finalement on peut perdre le soutien de Trump.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'une interview étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire. Javier Milei est interrogé par Louis Sarkozy, c'était le 3 septembre dernier sur la chaîne 21 News.
Quelle est votre situation politique actuelle en Argentine et quelles sont les grandes victoires? Nous savons que vous avez détruit l'inflation, réduit le taux de la pauvreté et que vous avez réussi à passer un nombre de lois tout à fait révolutionnaire, malgré un capital parlementaire relativement bas. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Quels sont les grands chantiers qu'il vous reste à faire? Et êtes-vous confiant pour les élections législatives à venir?
Yo creo que logramos tener tanto éxito parlamentario y hacer 8000 reformas estructurales.
Nous avons réussi à avoir un grand succès au Parlement, à faire 8000 réformes structurelles et à être en mesure de mettre en œuvre le programme au cours de la première année de gestion, alors que l'opposition était convaincue que cela allait mal tourner. En d'autres termes, ils croyaient qu'on allait s'effondrer. Eh bien, la vérité est que les preuves empiriques nous ont donné raison. Notre théorie s'est avérée vraie. Avec les résultats que nous obtenons, il est très probable que nous aurons des résultats électoraux très importants. Et c'est devenu un point charnière, car si nous obtenons de très bons résultats aux élections dans la province de Buenos Aires, nous pourrions mettre le dernier clou dans le cercueil du kirchnerisme.
Louis Sarkozy, très très admiratif, hein, Maricel Rodriguez Blanco de Javier Milei. Depuis, justement, qu'il a été élu président de la nation argentine, depuis 1 an, 10 mois et 20 jours, est-ce que il a pu mettre en œuvre les politiques publiques qu'il souhaitait, ou bien, justement, le fait d'être minoritaire du point de vue législatif, du point de vue de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'ont empêché d'arriver aux objectifs qu'il s'était fixés?
En fait, ce qu'on a vu depuis son arrivée au pouvoir, c'est que malgré sa minorité au sein du Parlement et du Sénat, il a pu gouverner grâce à un système, un dispositif qui existe en Argentine, qui est les décrets de nécessité et d'urgence, les DNU. Donc c'est grâce à ces décrets qu'il a fait passer en premier lieu, la semaine même, en fait, de son arrivée au pouvoir et les semaines qui ont suivi, un certain nombre de lois et des décrets, la Ley Bases notamment. Et donc qu'il a pu en partie, mettre en place ces politiques, son plan en fait économique grâce à ces décrets. En revanche, c'est certainement la minorité, le fait d'être minoritaire au Parlement, ça supposait un obstacle et il souhaitait justement gagner ces élections et il en tire un succès ces élections justement parce que maintenant, comme il a dit lui-même, il aura une marge de manœuvre plus importante, une légitimité aussi supérieure à celle qu'il avait avant et donc il croit qu'il pourra mettre en place continuer à approfondir son plan économique d'austérité en Argentine, des façons un peu plus souples, en fait, plus commodes, plus confortables que jusque-là.
Pourtant, Javier Milei n'a pas aujourd'hui encore la majorité absolue au Parlement, Carlos Kenan. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a tout de même les mains un peu plus libres qu'il y a quelques semaines?
Certainement, il a les mains un peu plus libres, en tout cas moins de contraintes, moins de restrictions, mais il n'a pas la liberté absolue pour faire ce qu'il voudrait, parce qu'effectivement, il n'a pas la majorité. Il a une première minorité, presque à égalité dans la Chambre des députés avec les péronistes, et la possibilité de développer, donc, à partir de là, des alliances, des accords avec une partie de ce qui était considéré en Argentine une opposition modérée ou des secteurs proches, intermédiaires entre milléisme et péronisme. Et c'est là qu'il va se jouer justement l'avenir de ces deux prochaines années, c'est-à-dire la capacité à mettre en place ces accords-là. Il faut dire que dans ce que l'on avait dit précédemment, c'est-à-dire qu'il avait passé des lois ou des politiques à travers des décrets, des nécessités d'urgence, etc., il y a eu peut-être deux phases à considérer. La première année où il y arrive, et puis les derniers mois où les cadres macroéconomiques s'étaient dégradés du fait de cette sortie des réserves d'échange, du soutien acharné de la parité entre le peso et le dollar pour soutenir la politique anti-inflationniste et l'éclatement de certaines affaires de corruption, tout ça avait finalement affaibli ses liens avec le secteur de l'opposition modérée. Et donc, il se retrouvait, Milei, avec la nécessité de mettre des veto contre des propositions de loi de cette opposition, la plus dure, mais ceci le secteur le plus modéré, qui demandait, par exemple, une revalorisation de retraites, toute une série de mesures de compensation par rapport au coût de l'ajustement. Donc, ceci jouait aussi dans le sens de l'idée de un affaiblissement de Milei dans les mois et les semaines qui précédaient les élections. Mais finalement, il s'est avéré que non, pour des facteurs qu'on a évoqués déjà. Finalement, il a réussi à redresser la barre, finalement.
Comment est-ce que vous qualifiez, en tant que politiste, la nature même du pouvoir de Javier Milei? On entend parfois qu'il est qualifié de responsable d'extrême droite, parfois de populiste, parfois d'anarcho-capitaliste libertarien. Quel est le terme juste, selon vous, Maricel Rodriguez Blanco, pour commencer?
Oui, alors je pense que c'est très intéressant la question, puisqu'on a vu peut-être un certain nombre d'étiquettes en fait mises sur ces gouvernements de Milei, tantôt des étiquettes qui pouvaient réduire son gouvernement à un pouvoir simplement économique, purement économique, comme notamment l'étiquette d'anarcho-capitaliste, et qui d'ailleurs, c'est une étiquette qui tient à la définition que lui-même il autoproclame, hein, il donne de son gouvernement.
Armé de sa tronçonneuse.
Tout à fait. Et d'un autre côté, on a pu aussi entendre, en fait, dans un discours un peu plus appuyé sur des données empiriques, notamment et sociopolitiques, comment on peut caractériser ces gouvernements, en réalité, qu'en faisant partie de la montée des extrêmes droites, qu'on voit d'ailleurs dans le monde entier, et pas seulement en Argentine ou en Amérique latine. Et une extrême droite un peu particulière, un peu spécifique, en fait, de ces pays-là, puisque avec ce qu'on pourrait appeler un néoconservadorisme, en fait, culturel, hein, en lien avec un certain nombre de valeurs culturelles que Milei défend fortement, il y a cette idée quand même ultralibérale, donc des prolonges, non seulement prolonger, mais vraiment approfondir de façon brutale les politiques qu'on a connues dans les pays, dans les années 90 notamment, mais après, par la suite, et les politiques néolibérales. Donc en fait, je dirais que Milei a réussi à articuler d'une part un pouvoir autoritaire qui s'exprime par exemple dans sa capacité à réprimer et sa capacité à revendiquer, hein, à réprimer tout opposant en fait à son gouvernement, que ce soit des syndicats, des mouvements sociaux, des mouvements de retraités qu'il a durement réprimés, des mouvements des universitaires, des mouvements des étudiants, etc. Et d'un autre côté, un pouvoir autoritaire aussi qui se traduit par les insultes, par la banalisation de l'insulte en politique d'ailleurs, le fait de disqualifier, de transformer un adversaire politique comme il y a le kirchnerisme, comme vous avez mentionné au début, en ennemi intérieur en fait, et donc il a articulé vachement sa campagne autour de cette idée-là. Il articule ces discours-là, ces pouvoirs autoritaires en fait, avec un pouvoir ultralibéral en matière économique, donc des politiques de régulation, des privatisations, des politiques économiques, des casses de l'État social qui ont donné ces effets. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment expliquer, malgré ces bilans social en fait, catastrophique, et de mon point de vue, comment expliquer sa victoire aux élections?
C'est l'ambition de la prochaine salve de questions, mais avant cela, Carlos Kenan, comment est-ce que vous qualifiez vous-même la nature de ce pouvoir argentin aujourd'hui?
D'abord, Milei est un outsider, quelqu'un qui vient d'ailleurs et profite de ces échecs des gouvernements qui le précèdent, non seulement du gouvernement kirchneriste, disons, juste précédent Milei de 2019-2023, mais ceci du gouvernement de centre droit de l'ancien président Macri précédemment. Donc
la figure de l'outsider, celui, j'allais dire, qui vient briser le système politique,
voilà,
en place.
Et qui a la capacité à, et ça c'est c'est surtout la capacité d'être un bon communicant, pour ainsi dire, peut-être plus qu'un bon politicien, un bon dirigeant politique, et qui installe un certain nombre de sujets pour la campagne électorale de 2019. Lutter contre la caste et la corruption, contre les politiciens corrompus. Et la motosierre, la tronçonneuse, disons, pour couper dans la dépense publique, et même une question qui est passée un peu aux oubliettes, parce que ce n'était pas faisable du tout, la dollarisation de l'économie. Tout ça, il installe ça, tout le monde discute autour de ça, et bien évidemment, et ça c'est le premier succès. Ensuite, au service de quelle conception et de quel projet politique ? Bien, c'est un ultralibéral, en effet. Il l'a dit lui-même au niveau de plusieurs entretiens, reportages, etc., qu'il voulait détruire l'État de l'intérieur. Mais, effectivement, il se heurte aussi aux contraintes de la politique et des rapports de force. Il ne peut pas le faire, bien évidemment, tout de suite, mais essaie de le réduire. Et trouve, et en rapport avec le discours de la campagne électorale, un axe central, la lutte contre l'inflation. Réduire l'inflation, c'est l'indicateur fondamental. Tout est subordonné à ça. À partir de là, populiste, pas populiste, je suis très, comment dire, réticent par rapport à cette catégorie-là, puisqu'il y a des populistes du nord, du sud, de droite, de gauche, mais je dirais qu'il y a un aspect ultralibéral sur le plan économique, et puis un aspect, je dirais pas autoritaire, mais des très autoritaires dans la gestion de la vie politique liée à cette conception, comment dirais-je, de contre-culturelle, n'est-ce pas, contre le wokisme, toutes ces questions-là que à discuter, bien évidemment, la portée. Donc là, il fait une espèce de synthèse de tout ça, mais avec des résultats finalement probants, puisque, encore une fois, il y a le socle de l'inflation. La lutte contre l'inflation est très importante.
On va y revenir, mais juste, Maricel Rodriguez-Blanco, vous disiez un peu plus tôt que c'était tout de même un leader qui restait d'extrême droite. Lorsqu'on fait son bilan de mi-parcours à Javier Milei, qu'est-ce que l'on peut identifier comme spécifiquement d'extrême droite du point de vue du discours comme de la politique publique ?
Un certain nombre d'aspects. Par exemple, en premier lieu, c'est un gouvernement entièrement, mais Milei en particulier, qui a mis en place une politique anti-parlementaire, en fait, mm-hmm. en tout cas en méprisant le rôle et le travail parlementaire, concrètement, à plusieurs reprises, y compris quand il est arrivé au pouvoir, il a donné ses discours, on s'en souvient, de dos au Parlement. Mais après, quand il a nommé les parlements, il a défini comme lidera, quand il a mené une politique carrément anti, aussi contre-pouvoir, c'est-à-dire une politique très critique et même répressive, hein, j'insiste sur ces termes-là, tout mouvement critique du gouvernement, en fait. Donc dans cette espèce de pouvoir qui installe beaucoup d'extrême droite, maintenant qu'on qualifierait comme populiste, mais c'est pouvoirs, en fait, qui s'instaurent en passant par-dessus les médiations et justement par-dessus les contre-pouvoirs, c'est-à-dire un pouvoir qui va réprimer les mouvements sociaux, qui va attaquer la justice, qui va attaquer les médias, en fait. On se souvient d'une attaque directe aux journalistes qui a poursuivi. Donc, dès ces points de vue, là, c'est vraiment un pouvoir autoritaire, et puis associé aussi à Vox, associé à l'extrême droite chilienne, associé à Trump, et donc à des extrêmes droites dans le monde entier.
Alors, pourquoi a-t-il remporté ces élections législatives demi-mandat ? C'est évidemment la question. Hein. Quand on se rappelle ce que vous venez de nous dire, les régressions en termes sociale, la casse sociale, ce sont les termes que vous avez employés. Si on reste strictement, pour commencer, dans le champ économique, Carlos Kenan, quels succès, j'allais dire, appartiennent aujourd'hui à Javier Milei ? La première réponse est évidemment l'inflation. Hein, elle était de 211% en 2023 à 32% désormais. C'est, j'allais dire, son premier trophée ?
Oui, mais je voudrais dire un mot sur l'aspect extrême droite, très rapide. Et effectivement, il participe de ces mouvements d'extrême droite dans le monde, etc., mais avec des spécificités propres à l'Argentine. Par exemple, la composante nationaliste qui apparaît très forte, disons, dans l'extrême droite européenne, anti-immigration, etc., ou chez Trump, n'apparaît pas en Argentine. Et je sais pas...
Pas de discours anti-immigration chez Milei ?
Non, c'est pas ça le centre, c'est pas l'aspect central, non. Et maintenant, il dit faire de l'Argentine un pays grand de nouveau, un peu comme « Make America Great Again » de Trump, mais son mot d'ordre, c'est pas ça, c'est « Vive la liberté, bordel », n'est-ce pas ? « Vive la liberté, carajo ».
C'est le libertarien.
C'est le libertarien. Donc ça, c'est un... Mais il y a des courants libertariens qui appuient Trump, mais c'est dans le cas de Milei, c'est essentiel.
Sur l'économie, alors ?
Sur l'économie, il y a, évidemment, la lutte contre l'inflation. Milei, dans son discours, ça, il faut distinguer si les discours et les réalités, présente le fait que cette baisse de l'inflation est allée de pair avec une forte réduction de la pauvreté. En réalité, il y a là, effectivement, une chose à préciser. La pauvreté va diminuer, Mais par rapport à une montée initiale au premier trimestre de son gouvernement, parce qu'il y a une forte dévaluation qui implique une forte hausse de l'inflation également, initialement. Donc, l'inflation décroît, mais par rapport au premier trimestre de sa première année, mais par rapport à la moyenne de 2022-2023, on est à peu près dans le même niveau. Mais, de nouveau, l'aspect communication est très important. Et puis, en effet, l'autre question fondamentale, c'est la perspective de quelque sorte donner plus de prévisibilité à la vie économique grâce à cette maîtrise de l'inflation, parce qu'il y avait une vraie angoisse de la population à la fin du gouvernement précédent. Je crois que c'est clé, cet aspect inflation, et si on ne comprend pas pourquoi, sinon, la politique d'échange a été tellement utilisée pour avoir le dollar pas cher, pour ainsi dire, et pour éviter que les gens pensent à des anticipations inflationnistes du fait d'une dépréciation de la monnaie nationale.
Et dans le même temps, ces résultats, ces performances économiques, il faut tout de même les relativiser. Hein. Il y a eu en Argentine, depuis près de 2 ans, 200 000 emplois détruits. Je voudrais aussi donner quelques chiffres qui ont été mis en lumière par le journal Libération et qui ont un lien avec le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Argentins. Aujourd'hui, en Argentine, un café coûte en moyenne 3 euros dans un bar, un litre de lait 1,20 €, le ticket de bus 1,50 €. C'est à peu près, j'allais dire, le niveau de vie des Français. Et pourtant, le revenu minimum des Argentins, lui, est de 200 euros et 80% des Argentins gagnent moins de 600 euros, Maricel Rodriguez Blanco, là on est quand même, j'allais dire, dans un constat d'échec frappant du point de vue du pouvoir d'achat.
Oui, oui, tout à fait, du point de vue du pouvoir d'achat, du point de vue du pouvoir d'achat et des salaires, enfin la valeur du salaire est retombée en Argentine, la valeur de retraite, enfin les retraités sont aujourd'hui pauvres, il y a une bonne partie des travailleurs en Argentine, la population économiquement active qui est pauvre en fait, donc on a ces phénomènes qui s'alourdit après donc les années Milei. Mais je voulais revenir d'abord à cette espèce des fascinations que produisent les personnages, parce que il me semble que ces cadrages là en fait qui les définit comme un personnage un peu comme un miracle argentin ou comme un personnage un peu ovni, un peu outsider, je trouve que justement ça empêche la compréhension de ce qui permet d'expliquer finalement la victoire de Milei là lors des élections et le fait que les gens continuent à aller voter malgré ce bilan social. Et je pense que c'est extrêmement lié à une crise de la représentation politique qui existe en Argentine, qui affecte non seulement le camp de Milei mais aussi l'opposition dont on n'a pas parlé, et en particulier les droites qui ont été complètement absorbées. Donc c'est ça, c'est un résultat majeur de ces élections, elles ont été complètement absorbées, ou pour une bonne partie absorbée par le gouvernement de Milei.
Comment est-ce que vous l'expliquez, cette crise de la représentation latente, et surtout pourquoi Javier Milei n'en est pas lui aussi l'une des victimes collatérales?
Lui, il surfe sur cette crise-là, c'est-à-dire qu'il a profité non seulement pour ce qui a été souligné, hein, un capital de visibilité, un capital médiatique très important, mais c'est également avec une espèce de discours prophétique, des moralisations de la vie, où il opposait les gens des biens, on se souvient, les bons travailleurs aux profiteurs de l'État. Donc certes, il n'y a pas les immigrants comme figure centrale dans l'espace public, mais il y a quand même la figure de classe populaire qui serait, elle, profiteuse de l'État. Donc Milei a instauré ce discours-là, surfé sur cette vague-là, et en faisant beaucoup de mal d'un certain point de vue aux institutions, démocratiques comme je le disais, mais c'est également aux partis politiques. Pourquoi? Puisque il méprise donc le débat parlementaire et il s'appuie en cela sur une grande fatigue, on peut dire, d'une partie de la population argentine vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des élites politiques. On s'en souvient son discours anti-caste, alors même qu'il intègre non seulement la droite républicaine entre guillemets dans son gouvernement, mais c'est également il intègre à travers les candidats qu'il a choisis pour cette élection-là, des personnes, certes, pour certaines pas très connues, mais pour d'autres, des personnalités qui sont très intégrées dans la vie des élites locales, provinciales, depuis très longtemps. Donc, il présente ses candidats comme étant nouveaux, et il se présente, il a réussi à faire ça, en fait, à présenter l'idée de la rupture avec le kirchnerisme, comme si c'était le passé méchant contre lequel, il va ériger une nouvelle Argentine.
C'est un peu, d'ailleurs, je trouve, la question sous-jacente, Carlos Kenan, est-ce que c'est un succès véritable pour Javier Milei, ces élections, ou c'est un échec profond, patent pour les péronistes, les kirchneristes, dont tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'ils ont fait une campagne médiocre, atone, fondée uniquement sur l'anti-miléisme, sans rien proposer, ni de nouveau, ni de révolutionnaire, ni de fondamental?
Sans doute, il y a un problème de manque de projet de cette opposition-là qui n'a pas fait une véritable autocritique de la défaite de 2023, d'une part. D'autre part, peut-être un certain vieillissement de son électorat, qui est toujours un peu nostalgique de la période très lointaine de Perón, dans les années 40, 50, etc., mais aussi de la période de Néstor Kirchner et du premier gouvernement de son
entre 2003 et 2007.
Voilà, 2003-2007, voire même après, parce qu'ils surfent bien sur la crise de 2007-2008, l'impact international de cette crise qui avait éclaté aux États-Unis. Et là, il y a eu une croissance très forte, asiatique peut-être, mais c'était lié à un boom des prix des matières premières qui avait bénéficié à tous les pays en développement et à ce moment-là. Donc, il y a ces problèmes-là de manque d'autocritique. Et il y a aussi le fait que, je disais, vieillissement de son électorat populaire, etc., mais le fait opposé, c'est-à-dire Milei reçoit pas mal de voix des jeunes. Donc ça, c'était clair et net dans les années 2000, dans l'élection 2023. On pensait que ce phénomène était un peu dilué pour ces élections récentes, mais il semblerait que on commence à vérifier que ça continue à jouer. Et là, c'est intéressant parce que c'est une chose qui relie Milei à d'autres mouvements d'extrême droite. Très récemment, Le Monde, il y a 2-3 jours, présentait un très bon article sur la situation de l'extrême droite en Pologne et les déclarations des jeunes pour la liberté, qui constitue un axe central de ces mouvements d'extrême droite. Là, c'est une question à creuser de ces jeunes, comment dirais-je, tentés par ces discours et peut-être avec peu de mémoire historique aussi sur ce qu'a fait l'extrême droite dans l'histoire de l'humanité.
La voix de Donald Trump qui s'exprimait le 14 octobre dernier et qui s'est, on va le comprendre, très très largement immiscé dans ces élections législatives en Argentine.
If the president doesn't win, I know the person that he'd be running against, I believe.
Si le président ne gagne pas, je sais que la personne contre laquelle il se présente est probablement extrêmement à gauche et que sa philosophie est à l'origine du problème de l'Argentine. Nous ne serions donc pas généreux avec l'Argentine si cela se produisait. Si Milei perd, nous ne serons pas généreux avec l'Argentine. Je suis avec cet homme parce que sa philosophie est correcte. Il peut gagner, il peut ne pas gagner, mais je pense qu'il va gagner. Et s'il gagne, nous resterons avec lui. Et s'il ne gagne pas, nous partons.
Donald Trump, Maricel Rodriguez Blanco, s'est immiscé, peut-on le dire, de deux manières dans ces élections législatives en Argentine. D'abord, des menaces d'être moins généreux si jamais Javier Milei ne gagnait pas, ne l'emportait pas, et dans le même temps, des promesses très concrètes d'aide, de soutien en matière économique. Il a promis une aide de 40 milliards de dollars si Javier Milei, j'allais dire, gagnait ces élections législatives, ce qui est fait. Est-ce que cela a pu jouer dans le choix des Argentins dimanche dernier ?
Alors, il y a d'abord, il faut dire, de cette ingérence de Trump qui est assez nouvelle, en fait.
C'est une ingérence pour moi.
C'est une ingérence, carrément, dans la politique économique, dans la politique du gouvernement de Milei. En effet, directement, Trump a dit que si Milei gagnait pas les élections, il allait pas soutenir l'Argentine. Donc ça, effectivement, ça peut peut-être activer, en fait. Je pense qu'on néglige souvent le poids qu'a eu la crise de 2001, la crise financière, économique, politique aussi de 2001, chez beaucoup d'Argentins et Argentines. Ça peut peut-être réactiver une sorte de trauma qui aurait existé à partir de cette crise-là, puisque bon, on annonçait une espèce de lundi noir la suite des élections des mi-mandats. En revanche, je ne crois pas du tout que les votes, on puisse les réduire. Enfin, on sait très bien, en tout cas comme en sociologie, en sciences politiques, que les votes ne peuvent pas être réduits juste à des facteurs économiques. Ce n'est pas un choix économique rationnel pur et dur. Il y a des facteurs quand même sociopolitiques là derrière. Et donc, je voulais revenir sur un de ces facteurs, c'est l'idée que Milei a su peut-être travailler mieux que justement l'opposition actuelle, hein, péroniste et kirchneriste, sur la demande d'un certain nombre de jeunes, notamment, comme ça a été dit, qui sont aujourd'hui un cœur important des soutiens de Milei, qui adhèrent, alors une partie d'entre eux adhèrent idéologiquement à ses programmes, à son projet, sont ultralibéraux, adhèrent à cette idée de l'État faible, de l'État qu'il faudrait casser aussi, adhèrent. Mais tout ça, ça s'explique pourquoi ? Parce qu'il y a des dispositions fortement à croire des jeunes ont une figure des sauveurs, des prophètes, de quelqu'un qui vient résoudre tous les maux de l'Argentine. Et ça, c'est quand même quelque chose de très particulier du système politique argentin et de l'Argentine depuis plusieurs années. Et ces jeunes aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des jeunes souvent qui ont donc qui sont traversés par cet individualisme qui est en augmentation en Argentine. Ce sont des jeunes qui évidemment ont peur de la précarité, de tomber dans la précarité. Donc là, Milei joue avec une division sociale hein, vis-à-vis des fractions des classes populaires précarisées, qui est très efficace en fait pour attirer justement l'adhésion d'un bon nombre de jeunes. Et c'est comme ça d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut expliquer que ça fonctionnait finalement ces projets des Milei lors de ces élections.
Carlos Canan, est-ce que vous relativisez vous-même l'influence de Donald Trump tout en constatant son ingérence objective dans les affaires politiques argentines ?
Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait dire en termes de chiffres presque, Milei a un électorat dur, un noyau dur de 30%, 30 et quelques pourcents, on a vu lors des différentes échéances électorales, et puis il y a entre 10 et 15% qui peuvent être attirés ou pas, par exemple lors de l'élection provinciale du mois de septembre à la province de Buenos Aires, cet électorat-là ne s'est pas trop mobilisé. J'y étais à ce moment-là et on a tous, tout le monde constaté qu'il
Milei manquait... a fait un bien moins bon score.
Oui, là, il avait fait 30 et quelques pourcents, justement. Alors que maintenant, cet électorat-là, disons qu'il n'est pas qu'on ne constitue pas le noyau dur de l'électorat de Milei, s'est mobilisé, et peut-être un des facteurs, sans doute, était cette peur, n'est-ce pas, de l'effondrement si Trump ne continue à appuyer l'Argentine. Inversement, disons, le péronisme aussi, qui a environ 40% de l'électorat national, il faut qu'il mobilise ses troupes à fond pour aller au-delà, et pas plus, pas beaucoup plus. Et il y a cet aspect aussi structurel, des peut-être vieillissement de son projet, de son électorat. Et je rappelle que le péronisme, par exemple, il y a une vingtaine d'années, gouvernait une vingtaine de provinces, des 24 qu'il y a à l'Argentine, il y a 10 ans, une dizaine. Et maintenant, à la suite de ces élections, et il n'a gagné que sur 5 ou 6 provinces. Et il n'a que quelques, finalement, gouverneurs, n'est-ce pas, à la tête de ces provinces. Donc, il y a un changement plutôt structurel, il y a des facteurs conjoncturels. Je situerais l'ingérence de Trump comme un facteur conjoncturel. C'est très important maintenant comment ça va continuer l'histoire, parce que, en effet, la possibilité, disons, de survie du projet de Milei est en partie associée à la continuité de cet appui de l'administration Trump, ne serait-ce que pour dégager la scène par rapport aux échéances de dettes extérieures qu'a l'Argentine en 2026.
Il y a une forme de dépendance, en quelques mots, hein, Maricel Rodriguez Blanco, une forme de dépendance de Milei à l'égard de Trump pour la réussite de sa politique à l'intérieur même du pays, à l'intérieur même de l'Argentine ?
Oui, parce qu'au fond, maintenant, en fait, les politiques, la mise en place du plan ou l'approfondissement du plan de Milei dépend quand même de ses fonds. Alors, malgré le fait que Milei parle toujours des libertés, etc., mais bon, là, il dépend quand même de ces fonds-là pour que la monnaie s'effondre pas et donc pour assurer la mise en place des réformes à la fois du travail, des réformes des impôts, des réformes de retraite qu'il a déjà annoncées, en fait, et qui approfondiront, mais vraiment de façon très, très brutale aussi, la flexibilisation du travail, etc., tout un tas d'éléments. Mais en fait, je pense que, à côté de cela, Milei va devoir faire des alliances, construire des alliances avec les gouverneurs des provinces argentines. Et donc, c'est là où la question va être un peu plus difficile pour lui pendant ces deux prochaines années. C'est pourquoi ces élections, certes, ont été un triomphe pour lui, mais il ne faut pas oublier que 6 Argentins sur 10 n'ont pas voté pour Milei et qu'il y a une opposition qui va s'armer, qui va se réorganiser. Maintenant, elle est touchée. Hein. Le péronisme, il est fortement touché, le kirchnerisme en particulier, fortement touché depuis ces dernières années. Mais il va certainement se réorganiser en vue de l'échéance électorale de 2027.
Merci beaucoup à tous les deux de ces éclairages sur l'actualité argentine que nous continuerons de suivre. Carlos Canan, vous êtes économiste, vice-président de l'Institut des Amériques. Maricel Rodriguez Blanco, sociologue, maîtresse de conférences à l'Institut catholique de Paris. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Diane de Vancet, Stéphanie Villeneuve, Juliette Mouélic, Antoine Héral. À suivre après le journal, guerre en Ukraine et menaces russes. Comment entraîner les soldats au combat, au terrain et au face-à-face avec la mort ?